Vous écoutez, on lit pour vous.
Les prisons fédérales sont mal outillées pour les soins de santé mentale à long terme. Un texte de Stéphanie Vallet et Félix Deschênes, paru le 13 novembre 2025 dans Le Devoir. Le bureau de l'enquêteur correctionnel BEC affirme que des politiques lacunaires, une formation insuffisante et un manque de traitement spécialisé entravent les efforts du Service correctionnel du Canada pour offrir des soins de santé mentale. Dans son plus récent rapport annuel, l'enquêteur correctionnel Ivan Zinger déclare qu'il est tout à fait clair que le service correctionnel est fondamentalement mal outillé pour fournir des soins de santé mentale à long terme aux personnes souffrant de maladies mentales graves, y compris celles qui souffrent de détresse psychiatrique aiguë, d'idées suicidaires et d'automutilation chronique. Dans les cas impliquant de telles maladies mentales graves, des transferts vers des hôpitaux psychiatriques externes, sécurisés et communautaires sont nécessaires, indique M. Zinger dans le rapport. Le Service correctionnel du Canada transfère régulièrement vers des hôpitaux externes les personnes nécessitant des soins physiques complexes comme la chimiothérapie ou la chirurgie cardiaque, note M. Zinger. Il serait impensable de tenter de telles interventions à l'interne, écrit-il, et pointe que le Service correctionnel du Canada, SCC, continue de croire, à tort, qu'il peut offrir des soins psychiatriques spécialisés à l'interne. Le rapport s'appuie sur les conclusions de 6 enquêtes nationales menées par le bureau de M. Zinger sur les soins de santé mentale offerts aux personnes condamnées au fédéral. Le BEC a réalisé 425 entrevues avec des personnes détenues et en liberté conditionnelle, effectué des visites sur place et rencontré le personnel des établissements et des services communautaires, des intervenants communautaires, des organisations autochtones et les autorités correctionnelles provinciales. Les services de M. Zinger ont constaté que des politiques nationales lacunaires, vagues, désuètes ou inexistantes, ont mené à une orientation et à une mise en œuvre inefficace, confuse et incohérente des services de santé mentale. Le manque de formation du personnel sur la façon de travailler efficacement et humainement avec les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale a contribué à la piètre qualité des soins dans les établissements correctionnels, indique le rapport. L'absence de dépistage et d'évaluation efficace des problèmes de santé mentale a engendré un effet domino avec des difficultés d'identification et d'accès aux services, excluant de nombreuses personnes nécessitant des soins renforcés, précise le rapport. M. Zinger a également constaté un manque d'options spécialisées en matière de programmes, de traitements et de possibilités d'acquérir des compétences favorisant la réinsertion réussie des délinquants. À cheval sur deux législations. L'une des enquêtes a porté sur les 5 centres régionaux de traitement du service correctionnel. Ces centres présentent une dynamique particulière. Ce sont des établissements hybrides, à la fois hôpitaux psychiatriques, en partie régis par la législation provinciale en matière de santé, et établissements pénitentiaires fédéraux soumis à la législation fédérale, indique le rapport. Tous les centres de traitement, à l'exception du Centre régional de psychiatrie des Prairies, sont situés dans de plus grands complexes pénitentiaires. M. Zinger a conclu que ces centres peuvent être décrits comme des établissements de soins intermédiaires et gériatriques avec une capacité limitée en matière d'urgence psychiatrique pour les cas aigus. Il convient donc de les redéfinir et de les reconnaître comme tels. Les personnes ayant des besoins psychiatriques complexes aigus et de longue durée devraient être transférées en vertu de l'article 29 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LSCMLC, dans des établissements externes spécialisés capables d'offrir le niveau et la qualité appropriée de soins, indique le rapport. M. Zinger, qui prévoit prendre sa retraite à la fin janvier, a affirmé mercredi lors d'une conférence de presse que le système correctionnel n'avait jamais été conçu pour répondre aux besoins des personnes atteintes de troubles mentaux graves. Ces établissements sont désuets, mal équipés et ressemblent de plus en plus à des entrepôts pour personnes atteintes de troubles mentaux, personnes âgées et personnes vulnérables sur le plan médical, plutôt qu'à des lieux de soins, de traitement et de rétablissement, a-t-il déclaré. Le maintien de ces personnes dans des centres de traitement gérés par le service correctionnel est inefficace, inapproprié et constitue une violation flagrante des droits de la personne, ajoute-t-il. Problème d'investissement. M. Zinger qualifie l'annonce par le gouvernement fédéral d'un nouvel établissement de 1,3 milliard de dollars pour la région de l'Atlantique de profonde mauvaise affectation des ressources. Plutôt que d'investir dans un autre établissement interne, le gouvernement aurait dû demander aux services correctionnels de collaborer avec les systèmes de santé provinciaux afin d'accroître l'accès à des lits en psychiatrie sécurisés dans la communauté, peut-on lire dans le rapport. Dans une réponse incluse dans le rapport de M. Zinger, le service correctionnel rejette les recommandations. Le service correctionnel affirme disposer d'un système de santé et d'un modèle de prestation de services permettant d'offrir des services en fonction du niveau des besoins. Le service correctionnel indique que ces services de santé, y compris les centres régionaux de traitement, sont agréés par Agrément Canada, le même organisme qui agrée les hôpitaux et autres fournisseurs de services dans les collectivités du pays. Le service correctionnel précise qu'il a également un partenariat avec l'Institut Philippe Pinel de Montréal pour la prestation de soins psychiatriques en milieu hospitalier aux détenus, hommes et femmes, sous réserve du respect des critères d'admission de l'Institut. Le service correctionnel affirme qu'il continuera de collaborer avec les hôpitaux psychiatriques provinciaux afin d'accroître la capacité existante. Ces efforts seront consentis en reconnaissance du fait que les établissements de soins de santé provinciaux disposent d'une capacité limitée pour fournir des soins aux détenus sous responsabilité fédérale et surtout pour admettre ceux qui ont des besoins complexes en matière de santé et de sécurité, indique la réponse. Le service correctionnel ajoute qu'il procède également à un examen approfondi de ces centres régionaux de traitement afin d'établir un référentiel de services normalisés. L'examen visera à garantir que les services répondent aux besoins et offrent une combinaison adéquate de soins hospitaliers psychiatriques, de soins de santé mentale intermédiaire et de soins médicaux de courte durée, indique le service correctionnel. Le nouvel établissement, prévu à Dorchester, Nouveau-Brunswick, sera un centre de soins de santé moderne, bilingue et spécialement conçu à cet effet qui permettra au service correctionnel de faire progresser son modèle de soins de santé axé sur le patient, ajoute-t-il. C'était « Les prisons fédérales sont mal outillées pour les soins de santé mentale à long terme », un texte de Stéphanie Vallet et Félix Deschênes, paru le 13 novembre 2025 dans Le Devoir.
Saurez-vous reconnaître ces signes d'hameçonnage? Un texte commandité, paru le 27 septembre 2025 dans La Presse. Qu'est-ce que l'hameçonnage? Selon Carl Lapointe-Legault, conseiller principal en prévention de la fraude chez Desjardins, l'hameçonnage est l'un des stratagèmes de fraude les plus répandus. Il consiste à se faire passer pour une institution financière ou une organisation connue dans le but de soutirer des renseignements personnels ou financiers aux victimes. Les criminels cherchent ainsi à vous orienter vers un faux site Web pour recueillir vos informations confidentielles ou encore à installer un logiciel malveillant sur votre appareil à votre insu. Parce que les stratagèmes de fraude évoluent régulièrement, il importe de connaître les indices qui peuvent aider à les repérer et les réflexes à adopter pour réduire les risques. Testez vos connaissances à l'aide de ce court jeu questionnaire. Saurez-vous différencier le vrai du faux? 1. L'hameçonnage utilise toujours un hyperlien fraudulé pour vous piéger. Faux. Télécharger un fichier non sécurisé ou ouvrir une pièce jointe pourrait suffire à installer un logiciel malveillant sur votre équipement. Les codes QR frauduleux peuvent aussi mener vers de faux sites Web ou activer un téléchargement suspect. Méfiez-vous des messages non sollicités et assurez-vous de leur fiabilité avant d'interagir avec leur contenu. 2. Les tentatives d'hameçonnage cherchent souvent à exploiter la curiosité et les émotions. Vrai. En présentant une situation problématique ou une offre alléchante, les criminels visent à provoquer un sentiment d'urgence chez leurs victimes pour réduire leur vigilance. Prenez toujours un moment pour réfléchir, pour vérifier l'information par vous-même et pour consulter une source officielle avant d'agir. 3. Le nom de l'expéditeur d'un courriel peut facilement être modifié à des fins frauduleuses. Vrai. Pour vérifier la légitimité d'un message, concentrez-vous surtout sur le nom de domaine de l'adresse courriel d'envoi. En règle générale, il doit correspondre exactement à celui de l'organisation. Attention aux variations trompeuses ou aux caractères inhabituels. En cas de doute, supprimez le message. Signalez-le comme pourriel et rapportez-le au Centre antifraude du Canada. 4. Il est courant que les grandes organisations et les gouvernements effectuent des remboursements par texto. Faux. Notamment pour des raisons de gestion et de traçabilité, les remboursements légitimes se font habituellement par chèque, par dépôt direct ou par crédit porté directement à votre compte. Si vous recevez un texto de ce type, supprimez-le et vérifiez ce qui en est auprès de l'organisation par ses canaux officiels. 5. Vous ne devriez pas cliquer sur un hyperlien ou balayer un code QR dont vous ne connaissez pas la source. Vrai. Les hyperliens et les codes QR peuvent diriger vers des sites frauduleux ou déclencher le téléchargement de logiciels malveillants. La prudence est particulièrement de mise avec les codes QR, car il n'est pas toujours facile de vérifier vers quel site Web il renvoie. Évitez d'interagir avec tout contenu reçu de manière non sollicitée ou de provenance incertaine, comme une affiche dans un lieu public. 6. Il est possible de vérifier l'adresse d'un hyperlien sans cliquer dessus. Vrai. vous pouvez vérifier la destination d'un hyperlien en plaçant votre curseur dessus sans cliquer. L'adresse Web s'affiche généralement en bas de la fenêtre. Méfiez-vous si le lien contient des caractères inhabituels ou ne correspond pas au site Web habituel de l'organisation. Si rien ne s'affiche, faites un clic droit. Choisissez l'option « Copier le lien » et collez le contenu dans un document texte pour le lire. Sur un appareil mobile, un appui prolongé sur le lien, sans retirer votre doigt, permet généralement de voir l'adresse complète. 7. Si un message est personnalisé à l'aide d'une information spécifique sur vous, il doit être légitime. Faux. Les informations publiées sur les réseaux sociaux peuvent être récupérées et exploitées par des cybercriminels afin de rendre leurs tentatives de fraude encore plus convaincantes. De nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, IA, peuvent également faciliter la création massive de messages personnalisés. Limitez les renseignements que vous publiez, comme votre lieu de résidence ou votre date de naissance, et faites preuve de vigilance, même avec un expéditeur qui semble bien vous connaître. 8. Un message vous avise d'une situation urgente ou problématique. Il est recommandé de vérifier ce qui en est par vous-même en communiquant avec l'organisation au numéro de téléphone indiqué. Vrai et faux. Vérifier le tout par vous-même est un bon réflexe, mais n'utilisez jamais les coordonnées fournies dans le message suspect. Elles sont peut-être frauduleuses. Il est préférable d'appeler au numéro officiel de l'organisation, comme il apparaît sur son site Web ou sur une source sûre, notamment au dos de votre carte de débit pour joindre votre institution financière. C'était « Saurez-vous reconnaître ces signes d'hameçonnage? » Un texte commandité, paru le 27 septembre 2025 dans La Presse.
L'insuffisance rénale, une menace silencieuse. Un texte de Frédéric Charret, paru le 22 août 2025 dans Virage. Pierre Chrétien se sentait en pleine forme lorsque son médecin l'a appelé au travail pour lui annoncer les résultats d'une prise de sang de routine. Citation « Je le connais bien. D'habitude, on se faisait des jokes, mais là, c'était sérieux. Il m'a dit « Va tout de suite à l'hôpital à Trois-Rivières, ils t'attendent. » Tout s'est mis à tourner dans ma tête. » Fin de citation. À l'urgence, Pierre subit un examen, enchaîne les tests et rencontre un néphrologue. C'est à ce moment qu'il apprend qu'il souffre d'une insuffisance rénale terminale. Citation « J'étais comme une bombe ambulante. J'aurais pu faire un accident vasculaire cérébral à tout moment. » Fin de citation. Son état est alors si grave qu'il n'y a plus rien à faire pour ralentir la détérioration de ses reins. Ce sera l'hémodialyse d'abord, puis, si possible, une greffe. Sans avertissement, le monde de Pierre vient de basculer. Une maladie discrète. Mesurant environ 12 cm, les reins sont deux petits organes situés de part et d'autre de la colonne vertébrale. Leur rôle, filtrer les déchets et l'excès de liquide présent dans le sang. Lorsque leur fonctionnement s'altère, les impuretés s'accumulent dans le corps. Citation, l'insuffisance rénale est pernicieuse. Car au moment où l'on commence à ressentir des symptômes, il est parfois déjà trop tard, explique le docteur Olivier Dieck, médecin spécialiste des maladies du rein à l'hôpital Charles-Lemoyne en Montérégie. Les signes apparaissent souvent lorsque la fonction rénale est descendue à 15 ou 20 %. Fin de citation. et les manifestations de la maladie sont si peu spécifiques qu'elles passent facilement inaperçues. Citation: dans les stades avancés, par exemple, on observe de la fatigue, une perte d'appétit, une perte de poids, des démangeaisons, énumère le docteur Dieck. Mais ces symptômes peuvent être confondus avec bien d'autres affections, des troubles thyroïdiens, une dépression, un virus. Fin de citation. Conséquence, de nombreuses personnes apprennent qu'elles souffrent d'une déficience alors que leur fonction rénale est déjà gravement altérée. C'est ce qui est arrivé à Suzanne de Serre. Au début de la cinquantaine, lors d'un simple suivi médical, son médecin a détecté une tension artérielle trop élevée, ce qui a mené à des analyses plus poussées. Celles-ci ont révélé que sa fonction rénale globale n'était plus qu'à environ 20 %. Citation: « Ce fut un choc, se rappelle la Montréalaise. J'étais sportive, je mangeais bien. » Fin de citation. Son insuffisance rénale avancée avait été causée par une bactérie qui avait attaqué son rein gauche. Son médecin lui a prescrit un traitement pour tenter de ralentir la dégradation, ce qui a fonctionné pendant un certain temps. Mais quelques années plus tard, il n'y avait plus rien à faire. Elle allait devoir recevoir une greffe. Dépister tôt pour agir tôt. Il est estimé que la maladie rénale deviendra la cinquième cause de décès dans le monde d'ici 2040. Et les cas sont en hausse, notamment en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation de la prévalence du diabète et de l'hypertension. Citation: « Lorsqu'on dépiste tôt, on peut agir tôt et changer la trajectoire de la maladie », explique le docteur Dieck. Aujourd'hui, on dispose de médicaments ciblés qui peuvent vraiment ralentir son évolution. Fin de citation. Autre citation: ce qu'il faut, c'est éduquer les patients pour les inciter à consulter leur médecin de temps à autre, à faire des bilans de base, à se familiariser avec des notions comme la créatine, le taux de filtration globo-miraculaire ou la présence de protéines dans les urines, poursuit le spécialiste. J'encourage donc les gens à s'informer, à utiliser les bons outils, à poser les bonnes questions. Fin de citation. En détectant le problème relativement tôt, Suzanne de Serre a pu recevoir les traitements nécessaires pour vivre plusieurs années sans hémodialyse, ce qui lui a permis de préserver sa qualité de vie avant sa greffe. Pierre Chrétien n'a pas eu cette chance. En raison de la maladie qui attaquait ses reins, il ne pouvait pas recevoir de greffon. Pendant 7 ans, il a donc dû subir sa séance de dialyse de 4 heures, 3 fois par semaine. Citation: ce n'était pas facile, mais je voulais montrer à mes 2 enfants que, même malade, on peut faire quelque chose de sa vie. Je me suis accroché à ça. Fin de citation. Heureusement, un traitement de chimiothérapie lui a permis de devenir un candidat éligible à la greffe. Plus de 3 ans plus tard, son nouveau rein, guillemets, fonctionne comme une F1, fin des guillemets. Tout va bien aussi pour Suzanne de Serre, qui dit se sentir, citation, comme une femme de 20 ans, fin de citation. 10 ans après son diagnostic, la sexagénaire insiste, citation, il est essentiel de détecter les problèmes le plus tôt possible. Il faut en parler à son médecin et demander de passer les tests appropriés. Fin de citation. La Fondation canadienne du rein propose un test en ligne de 10 questions pour vous aider à déterminer si vous devriez en discuter avec votre médecin. Site web: êtes-vous-à-risque.ca. 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 Lexique. Voici quelques termes clés liés à la santé des reins. Taux de créatine sérique. Analyse sanguine qui mesure la créatine, un déchet produit par les muscles. Son taux augmente à mesure que la fonction rénale diminue. DFG pour débit de filtration glomérulaire. Indique la capacité de filtration des reins. Il peut être évalué précisément au moyen d'analyses poussées ou estimé à partir de données simples. DFG estimatif. Protéinurie. Présence anormale de protéines dans les urines, souvent détectée à l'aide d'une bandelette. Cela signale des dommages aux filtres rénaux qui ne devraient normalement pas laisser passer ces protéines. hypertension. Deuxième cause d'insuffisance rénale terminale au Canada. Elle est liée à environ 12 % des cas. L'hypertension constitue un facteur de risque majeur. Hémodialyse. Traitement pour les cas avancés. Le sang est filtré dans un dialyseur pour éliminer l'excès d'eau et les déchets. Source rein.ca. C'était l'insuffisance rénale, une menace silencieuse, un texte de Frédéric Charret paru le 22 août 2025 dans Virage.
Un réseau solidaire pour l'autisme. Un texte d'Alexis Ouellette-Lapointe, journaliste indépendant. Initiative de Rosa del Carmen Valencia, qui Kenya défend les droits des personnes autistes. Grâce à cette organisation, un mouvement se met en place pour rassembler les familles et lutter contre les préjugés sur l'autisme à Oaxaca. Nous voulons que l'autisme soit reconnu, qu'il y ait des ressources et des services adaptés à Oaxaca. Chaque samedi, Rosa del Carmen Valencia et son fils vendent des textiles de l'isthme de Tehuantepec au marché Manos Mágicas, mains magiques. L'autisme englobe un très large éventail de personnalités. Elle indique qu'il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un trait dynamique qui concerne les perceptions et la socialisation. Alors, l'autisme doit être pris en compte d'une manière adéquate. Une lutte personnelle et collective. Après avoir été confrontée à un labyrinthe bureaucratique pour défendre son fils, Rosa del Carmen Valencia a créé Kikenia. J'ai été cognée à la porte des ministères et de différents organismes publics, mais je n'ai obtenu aucune aide. Elle explique que son fils a eu durant des années un accès très difficile à l'éducation et qu'il s'agit encore d'une lutte essentielle pour sa famille. Il n'était pas à sa place à l'école régulière, ni dans les classes d'adaptation scolaire du système public. Son fils a ensuite obtenu un diagnostic d'autisme à Mexico. Nous avons besoin de soutien, et avec l'association, nous nous donnons un espace de solidarité. Si Kikenia défend publiquement les droits des enfants vivant avec l'autisme, l'association favorise aussi leur éducation et leur intégration sociale grâce à divers ateliers. Également, elle fournit des locaux pour offrir des cours de niveau primaire et secondaire. Cependant, Rosa dit qu'il demeure difficile d'avoir accès à des enseignants et des enseignantes. Il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire dans le milieu scolaire à Oaxaca. Un réseau solidaire pour l'autisme. Un texte d'Alexis Ouellette-Lapointe, journaliste indépendant.